OK. Donc, on commence notre étude. C'est la deuxième semaine. On va peut-être faire une révision un peu. Il y avait quelques-uns qui n'étaient pas là pour la première réunion. Sur le livre de Ruth, on est dans le livre de Ruth à 4 chapitres. C'est un livre très intéressant parce que, comme on a dit, c'est un livre qui nous parle de la rédemption. Le mot Goël qui veut dire, qui est traduit par racheter ou le proche parent, le vengeur du sang ou celui qui a le droit de rachat. C'était quelqu'un qui était assez proche dans la famille pour racheter quelqu'un qui avait été vendu à cause de des dettes ou le vengeur du sang qui pouvait venger celui qui avait été tué par un autre. Et qu'on lit dans la parole de Dieu, le vengeur du sang. Donc, premièrement, on va commencer par lire le premier chapitre de Ruth. Et on commence au verset 1. Ici, il nous est dit, du temps des juges. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Mahlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et il resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kiljon moururent aussi avec tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, Retournez, mes filles. Pourquoi voudriez-vous, viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, J'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, Voici ta belle-sœur. Elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, Est-ce là Naomi? Elle leur dit, Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée? Ainsi, ils revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble. On va demander l'aide du Seigneur pour notre étude. Seigneur notre Dieu, on est heureux, Seigneur, de se rassembler autour de ta parole. On est heureux de se retrouver ensemble, notre Dieu, ceux qui ont la même foi, qui ont connu le salut, le rachat que tu nous as envoyé par notre proche parent, le Seigneur Jésus, qui, lui, est devenu un homme. Il s'est fait homme. Il a été pour pouvoir nous racheter de nos péchés. Seigneur, on te remercie. Aide-nous ce soir afin que ce qu'on va apprendre de ta parole puisse nous encourager, puisse nous fortifier, puisse nous donner de persévérer dans la joie, Seigneur, en attendant le retour merveilleux de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. On t'en rend grâce en son nom précieux. Amen. Donc, on avait dit que le premier verset nous donne le temps, c'est-à-dire que c'est le temps des juges, puis il nous introduit aussi avec un homme de Bethléem, Juda, et sa femme, qui sont des... Bethléem, c'est la maison du pain, avec Juda, c'est la louange. Mais ils sont partis de Bethléem, de Juda, parce qu'il y avait une famine dans le pays de Bethléem, Juda, la maison du pain. Donc, c'était pour eux une excuse de laisser, puis ils ont laissé pour s'en aller au pays de Moab avec leur fils Maclon et Kiljon. Mais c'est jamais une bonne raison de partir de la maison du pain. S'il y avait une famine, on avait vu que s'il y avait une famine dans la maison du pain, c'est qu'il y avait un problème. Puis au lieu de chercher la solution, ils sont partis. Mais on va voir que le Seigneur avait donné du pain et il avait béni la maison du pain en donnant du pain. Puis eux, ils n'étaient pas là pour participer à la bénédiction, mais dans la grâce de Dieu, on va voir qu'ils vont retrouver, ils vont pouvoir entrer dans cette bénédiction-là, mais auparavant, bien, il va y avoir la mort d'Élimélec, il va y avoir la mort aussi de Maclon et Kiljon. On avait parlé dans le deuxième verset des noms qui en disent beaucoup sur la situation, parce qu'Élimélec, c'était Dieu est mon roi. Tandis que Naomi, ben, c'est bien-aimée. Et les deux fils, ça, on avait dit que les noms sont donnés par les parents, puis reflètent vraiment la foi des parents. Mais des fois, la foi n'est pas transférée dans la génération qui suit. Puis eux, ben, ils n'étaient pas dans l'atmosphère de l'Éternel est mon roi, puis la bien-aimée. Donc on a ici le roi, c'est le Seigneur Jésus avec sa bien-aimée qui est l'épouse. Mais eux, ils ont donné comme nom à leurs enfants, ce qui reflétait leur situation, Maclon et Kiljon. Puis Maclon, ben, qui veut dire maladif. Attendez un petit peu, ben, okay. Et ben, il dit qui veut dire maladif, puis Kiljon qui veut dire languissant. Maclon, c'est maladif, faible, affligé. Mais on avait dit quand l'appréciation du Seigneur décline, on oublie, on perd la joie, c'est une faiblesse spirituelle, puis ça continue, ben, ils deviennent languissants, se perdent dans l'affliction, la destruction. Ça, au contraire, ils étaient éphratiens, ça veut dire que éphratiens qui veut dire fécond. D'un mot qui veut dire porter du fruit, grandir, augmenter, mais là, eux, ils étaient en diminuant. C'était le contraire. Puis Bethléem, qui veut dire la maison du pain. Et on avait dit que c'est le meilleur endroit qu'on peut avoir pour porter du fruit, ben, c'est dans le rassemblement des enfants de Dieu, dans l'assemblée. Puis, mais il y a plusieurs qui quittent par une excuse, puis on n'est jamais gagnant quand on quitte, puis on va voir qu'eux non plus, ils n'ont pas été gagnants. Mais la faillite de l'homme, on avait dit que la faillite de l'homme dans ce livre rencontre la grâce de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Puis ça c'est vraiment notre histoire à chacun. Parce que quand on pense, on était dans la faillite, dans le péché, on était séparés de Dieu. Mais la grâce de Dieu nous a rejoints pour nous offrir une rédemption éternelle dans la personne de notre proche parent, celui qui s'est fait homme, qui a pris la forme humaine pour pouvoir nous racheter. Et c'est le Seigneur Jésus. Puis on a maintenant une espérance merveilleuse. Même des fois, en parlant à des témoins de Jéhovah, des fois, ils disaient, tu veux dire que parce que l'homme a péché, l'homme était créé pour être sur la terre, puis parce qu'il a péché, maintenant, il va être au ciel. J'ai dit, n'est-ce pas que la grâce de Dieu est merveilleuse? Puis c'est vrai que la grâce de Dieu nous a donné au-delà de ce qu'on méritait. Puis on va le voir dans l'histoire aussi de Ruth, même à cause de leur départ, puis de leur perte, mais Dieu va pouvoir restaurer par la grâce les choses qu'ils ont perdues. Maintenant, on arrive au verset 3. Il dit, Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle restait avec ses deux fils. Donc maintenant, c'est la mort qui entre. Il n'y avait pas de pain. Mais là, maintenant, la mort qui vient s'installer dans la famille, le père, celui qui a pris la décision d'emmener sa famille à Moab, Moab qui vient de l'inceste de Lot avec sa fille. On pense on avait parlé aussi de Balaam qui avait été engagé par Balak pour venir maudire le peuple d'Israël. Balak était le roi de Moab, mais Balaam lui avait donné comme conseil d'envoyer des femmes pour corrompre le peuple, les inviter dans l'immoralité, puis aussi à adorer leur Dieu. Puis le Seigneur a châtié Israël à cause de ça. Donc, il les avait emmenés là. Mais maintenant, comme on dit, c'est la mort. Puis, il y a une leçon importante qu'on voit ici, la mort atteint les hommes. Bon, là, c'est Élimélec, mais éventuellement, ça va être les fils Maclon et Kiljon vont aussi mourir. Mais c'est une leçon parce que c'est une leçon en rapport avec le rôle que Dieu a donné à l'homme puis la femme. Dieu a donné des rôles différents à l'homme puis la femme. Puis, mais aujourd'hui, à cause de la culture, on est bombardé constamment pour dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Puis, dans le monde dans lequel on vit, on est vraiment contre le fait que des rôles différents ont été donnés à l'homme puis à la femme. Et ce n'est pas une question d'être supérieur ou inférieur, mais c'est des rôles qui sont donnés par Dieu. C'est lui qui a créé, même, on rejette même le fait qu'il a créé mâle et femelle, homme et femme. Mais aujourd'hui, c'est rejeté dans le monde dans lequel on vit. Puis même de parler comme ça, c'est quasiment dangereux parce que on n'aime vraiment pas entendre ces choses-là. Mais dans les rôles qui ont été donnés par Dieu à l'homme et la femme, c'est vraiment merveilleux. Il y a des belles leçons là-dedans. Puis la femme a un rôle vraiment merveilleux. Dieu lui a donné. Il y a des gens qui pensent que la Bible abaisse la femme, mais la Bible n'abaisse pas la femme. La Bible élève la femme. Elle lui donne un rôle vraiment merveilleux. Parce que c'est pas pour rien qu'on lit dans cette histoire ici, une histoire vraie, que on lit que les hommes sont morts, mais les femmes ne sont pas mortes. On voit que Naomi n'est pas morte, ni les filles, les femmes des fils. Puis il y a une leçon à apprendre là-dedans. Parce que l'homme représente la communion avec Dieu, tandis que la femme, elle, représente la relation avec Dieu. Puis on sait que la communion peut se perdre. Le péché nous fait perdre la communion avec Dieu. Même pour un sauvé, si on pêche, on est coupé, on va être coupé de communion avec Dieu. Mais la relation, quand on est sauvé par la grâce de Dieu, la relation, elle, ne se perd pas, aucunement. Puis, c'est ça que les femmes représentent. Les femmes représentent la relation. C'est pour ça que les hommes meurent, mais les femmes ne meurent pas. Puis, Dieu va utiliser les femmes aussi. Parce que ce que l'homme perd dans la communion, ben Dieu va utiliser la femme pour restaurer qu'est-ce que l'homme a perdu. Ça, c'est un principe de la parole de Dieu. Puis, quand on pense à ça, c'est aussi un principe. La grâce de Dieu se manifeste toujours envers le deuxième. Parce que le premier pourrait réclamer comme un dû, mais on ne peut pas réclamer la grâce de Dieu parce que c'est une grâce. La grâce veut dire c'est une faveur imméritée. Donc, on ne peut pas réclamer une faveur imméritée. Mais la grâce de Dieu vise toujours le deuxième. Quand on parle dans la parole de Dieu du premier-né, celui qui est né en premier n'est pas toujours le premier-né. Puis celui qui est le premier-né n'est pas toujours né en premier, parce que la grâce de Dieu, comme un principe, passe par-dessus le premier pour rejoindre le deuxième. La femme avait été créée avant, après, comme deuxième. Dieu a créé l'homme, puis il a sorti de l'homme la femme. Donc l'homme est venu en premier, mais l'homme ne peut pas réclamer la grâce de Dieu. Mais la femme, elle, en devient le véhicule pour la grâce de Dieu, que Dieu utilise pour restaurer ce que l'homme a perdu. Ça, on le voit dans le salut. Hein, c'est comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais la femme, elle, a amené un rédempteur. Puis tout de suite, la première fois que l'Évangile a été prêché, après que l'homme a péché, eh bien, dans le jugement qui a été prononcé contre le serpent, Dieu a promis que la postérité de la femme viendrait écraser la tête du serpent et que le serpent lui blesserait le talon par le fait même. Donc ça, on voit que c'est la femme qui a emmené le rédempteur. C'est pour ça que la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ est très importante. Dieu n'a pas utilisé l'homme, il a utilisé la femme pour pouvoir ramener ce que l'homme avait perdu. On va le voir dans, si on va dans le chapitre 4 de Ruth, au verset 17, on voit que là, si l'homme étant mort, la postérité s'est éteinte. Mais Dieu, dans sa grâce, parce que la postérité d'Élimélec ici, elle se serait éteindue, parce que lui est mort, puis ses deux fils sont morts. Mais maintenant, on voit que la postérité va être restaurée par la grâce de Dieu, puis ça va continuer. Puis c'est pour ça, comme on a dit, que le nom de Ruth n'est mentionné que dans le livre de Ruth, mais une autre fois dans le Nouveau Testament, dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, le nom de Ruth apparaît. Parce que Dieu a utilisé Ruth, elle fait partie de la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Si on le voit dans le chapitre 4, au verset 17, il dit, les voisines lui donnèrent, c'est parce que ici Ruth a eu un enfant, un fils de Boaz, puis les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Voyez-vous, c'est pas à Élimélec, mais à Naomi. Un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed. Et Obed, ça veut dire adoré. Puis après ça, Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Puis David, le nom David veut dire bien-aimé. Oui, c'est sûr que David était un bien-aimé parce qu'il est venu vraiment par la grâce de Dieu. Mais ensuite de ça, on voit que le mari meurt, Élimélec, il meurt. Mais ici, ils sont au pays de Moab. Puis c'est certain qu'étant au pays de Moab, qu'est-ce qui arrive? L'inévitable arrive. Les fils vont marier des femmes moabites. C'est ce qu'il dit au verset 4. Il dit, ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Donc, c'est l'inévitable qui arrive. C'est pour ça que quand on... Si on s'éloigne des chrétiens, ben, nos familles, nos enfants, ben, ils vont rencontrer des gens du monde. Fait que ça leur enlève l'opportunité de pouvoir trouver une épouse ou un époux chrétien. Donc, c'est ce qui est arrivé ici. Ils étaient au pays de Moab. Puis quand on est là-bas, ben, on est exposé à cela. Puis les deux fils vont s'unir à des femmes moabites. Puis, mais au lieu de Naomi, au lieu d'avoir écouté le châtiment du Seigneur au verset 2, il dit, arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure, puis Élimélec meurt. Naomi reste encore dans la situation. Le séjour va durer 10 ans, puis ça va prendre un autre avertissement pour que ça, c'est encore la grâce de Dieu, un autre avertissement. Le Seigneur donne des avertissements. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Mais des fois, il faut écouter. Il y avait un châtiment, puis Naomi aurait dû écouter à ce moment-là, mais ça nous prend du temps des fois pour en revenir. C'est un avertissement. Ici, au verset 5, qu'est-ce qui arrive? C'est Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Il y avait encore une possibilité dans les fils d'Élimélec, parce que c'est normal que quand on meurt, ben, nos enfants continuent. Ils auraient pu continuer la lignée, mais maintenant, ils meurent eux aussi. Puis, il n'est pas dit qu'il y a eu des enfants, donc il n'y avait probablement pas d'enfants, et pas mal sûr. Mais là, maintenant, il ne reste que des veuves. Les deux fils meurent, puis il reste seulement deux veuves. Mais comment restaurer l'héritage sans les hommes? Puis, c'est là que la grâce de Dieu va se manifester. Ça, on vient dans une situation impossible, mais la grâce de Dieu va remédier à cela par la grâce de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Quelqu'un a dit, la foi ne rend pas les choses faciles. La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle accomplit ce qui est impossible. C'est ça qui va arriver ici, là. La foi va se manifester. Mais comment la grâce de Dieu peut se manifester? Puis on le voit quand, dans Luc, au chapitre 1, verset 30 à 31, quand l'ange est apparu à Marie, il lui a dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Fait que c'est ça la grâce de Dieu. C'est que le Saint-Esprit est venu sur elle, puis elle a conçu, puis elle a donné naissance, naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de postérité, on parle de postérité de l'homme, mais ici, le Seigneur Jésus, lui, il est appelé la postérité de la femme, parce qu'il n'est pas né d'un homme. Puis c'est ce qui fait qu'il était impeccable, sans péché, c'est qu'il n'est pas né, il n'a pas reçu de son père le péché, mais son père étant Dieu lui-même, il était impeccable. Puis impeccable, ça ne veut pas dire la même chose que innocent. Adam était innocent dans sa création, il était sans péché, mais innocent, tandis que le Seigneur Jésus est sans péché, mais il est impeccable. Impeccable, ça veut dire qu'il ne peut pas pécher. Mais Adam pouvait pécher, il était innocent, puis la preuve, c'est qu'il a péché. Il a fait entrer le péché dans le monde. Mais le Seigneur Jésus, lui, c'était impossible que le Seigneur Jésus pèche parce qu'il était conçu du Saint-Esprit. L'ange avait dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de ton ombre et puis tu enfanteras un fils. Puis il dit, c'est pourquoi cette sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. Donc le Seigneur Jésus, c'est la naissance virginale qui était très importante pour qu'on puisse être racheté par lui, parce qu'il était impeccable, il pouvait lui devenir maintenant la victime expiatoire pour nos péchés. Puis c'est ça qu'on voit, l'homme avait perdu, en faisant entrer le péché dans le monde, il avait perdu la relation avec Dieu. Mais maintenant, Dieu, par la grâce qui rejoint la deuxième, la femme a été créée en deuxième, ou est arrivée en deuxième, puis elle a reçu, elle, le pouvoir de être le véhicule pour la grâce de Dieu, et Dieu a fait naître le Seigneur Jésus de la femme. Mais ici, on va le voir aussi que dans notre histoire, que Dieu va restaurer la lignée du Seigneur Jésus-Christ qui était en danger ici. Il va la restaurer à travers la femme. Ça, c'est le principe de la grâce. Mais on va voir que ce principe-là de la grâce, on le voit constamment dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que la grâce de Dieu saute par-dessus le premier pour rejoindre le deuxième. On le voit dans Caïn et Abel. Caïn était le premier fils, mais Caïn n'était pas dans la grâce, c'est Abel qui était dans la grâce. Puis même ensuite, Abel a été tué par Caïn, puis Dieu a remplacé Abel par Seth, puis c'est Seth qui est devenu la lignée. On pense aussi, dans la parole de Dieu, il est question du premier homme, Adam, quand la parole de Dieu nous parle d'Adam, mais dans Adam, on ne peut pas être sauvé dans Adam. Mais le deuxième homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le premier homme est tiré de la terre. Ça nous parle de la création d'Adam qui a été formé de la terre, puis Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie, puis il est devenu une âme vivante. Mais Paul nous parle du deuxième homme qui, lui, est du ciel. Il est venu du ciel, le Seigneur Jésus, il est céleste. Puis il dit, comme on a porté l'image du terrestre dans notre première naissance, eh bien, on va porter aussi l'image, ceux qui sont sauvés vont porter l'image du céleste dans la nouvelle naissance. Il nous parle du premier Adam. Ensuite de ça, il nous parle pas du deuxième Adam, mais du dernier Adam, parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en a pas besoin d'un autre, parce que lui est parfait, puis ça, c'est merveilleux. Mais aussi, quand on regarde, nous, dans notre situation, dans notre première naissance, on n'avait pas la grâce de Dieu, on était séparés de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, le Seigneur Jésus disait à Nicodème. Donc, le salut n'est pas dans notre première naissance. Notre première naissance, on a porté l'image du terrestre. Dans notre deuxième naissance, maintenant, on en vient à porter l'image du céleste, le Seigneur Jésus. Donc, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est ça qui est important. Donc, ici, comme on a vu, dit, l'homme se serait éteint. Ici, Élimélec se serait éteint dans la mort. Mais la femme va être utilisée pour que l'homme puisse continuer ou la race humaine. Puis, c'est ça qui est arrivé. Vous savez, quand l'homme était créé, il n'était pas mortel. La mort est venue à cause du péché. Donc, en entrant en faisant entrer la mort dans la race humaine, ben, s'il n'y avait pas eu la femme, la race humaine se serait éteinte à ce moment-là. Adam aurait vécu 900 quelques années, puis il serait mort, puis ça aurait terminé là. Mais c'est à cause de la femme que ça a pu continuer. L'humanité a pu continuer. Puis c'est là que Paul il nous dit dans 1 Corinthiens 11, 12, il dit, car de même que la femme a été tirée de l'homme, ouais, parce qu'au début, Dieu a créé Adam, puis de la côte d'Adam, il a sorti la femme. Mais il avait créé les deux en même temps, mais la femme n'était pas encore arrivée. Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil, puis de la côte d'Adam, il a fait la femme. Mais il dit ici, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. La première femme venait d'un homme sans une femme, mais le premier fils est venu. Tous les hommes après ça sont venus d'une femme et d'un homme. Mais après ça, on arrive à un homme qui, lui, est venu d'une femme sans un homme. Ça, c'est le Seigneur Jésus. C'est comme une équation, là. Le premier homme est venu non d'une femme, ni d'un homme, ni d'un homme, ni d'une femme. C'est Dieu qui l'a formé de la poussière de la terre. Après ça, la femme est venue par un homme sans une femme. Mais après ça, tous les autres hommes et femmes sont venus d'un homme et une femme. Puis là, ensuite, on a encore un homme qui, lui, vient non d'un homme, mais d'une femme, sans un homme. Ça, c'est la grâce de Dieu. Au verset 6 maintenant, il dit, puis elle se leva et elle et ses belles-filles, avant de quitter le pays de, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Donc ici, on arrive à la décision nécessaire qui a été suscitée par une prise de conscience. La décision nécessaire, on avait parlé qu'on pouvait comparer Naomi ici à l'enfant prodigue. Hein. L'enfant prodigue a fallu un jour qu'il fasse une décision parce qu'il avait quitté son père. Il s'était en allé dans un pays lointain, puis il avait dépensé le bien, son héritage, l'héritage de son père. Il l'avait dépensé avec des prostituées, puis maintenant il n'y avait plus rien, puis il faisait paître des troupeaux, puis il aurait voulu se nourrir des carouges qu'on donnait aux pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Puis là, c'est ça qui a fait en sorte qu'il a fallu qu'il fasse une décision. Dans Luc 15, 18, on voit qu'il a dit dans cette situation-là, ça nous dit qu'il est entré en lui-même. Donc, il a commencé à penser à sa situation. Puis, il voyait qu'est-ce qui se passait. Puis, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Donc, il y a une décision ferme qui a été suscitée par une prise de conscience. Il a fallu qu'il y ait une prise de conscience. Puis, on va voir aussi une décision ferme ici avec Ruth et Naomi. Puis, mais ça a été amené par une prise de conscience. C'est quoi la prise de conscience ici? Il dit au verset 6, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Donc, elle a appris ça dans le pays de Moab. Les nouvelles, quand même, voyageaient dans ce temps-là. Puis, mais ce qui est triste là-dedans, c'est que Dieu avait visité son peuple, puis lui avait donné du pain, sauf que Naomi n'était pas là. Elle était dans le pays de Moab, donc elle a manqué la bénédiction. Si elle avait été là, elle aurait vécu, elle aurait expérimenté la bénédiction du Seigneur avec le reste de ceux qui étaient à Bethléem, Juda, mais étant au pays de Moab, elle en a entendu parler sans en être bénéficiaire. Mais c'est ce qui a fait en sorte. C'est la prise de conscience. Maintenant, elle a compris que elle, en Moab, elle n'avait pas reçu la bénédiction, mais elle avait plutôt eu la malédiction parce que son mari qui était mort, ses deux fils qui étaient morts. Mais dans ce temps-là, elle a appris qu'au pays à Bethléem, Juda, que Dieu avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'est pour ça que des fois, on laisse à cause de des situations. Mais Dieu finit par régler la situation. Mais quand on est en dehors, on n'est pas bénéficiaire de la solution ou de la bénédiction que le Seigneur a donnée. C'est un peu comme le fils prodigue, l'enfant prodigue, dans Luc 15, 17, il dit, étant rentré en lui-même à cause du fait qu'il avait rien à manger, puis il faisait paître les troupeaux, qu'il a pensé en lui-même à son père. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. C'est quand même, il comprend ici, il dit que lui, il est dans une situation où il manque de tout. Comme Naomi a dit qu'elle était vraiment, elle va parler à un moment donné, elle va dire qu'à son départ, elle était dans l'abondance, puis maintenant, elle est privée de tout. Mais ce n'était pas la façon de penser. Quand ils ont parti, ils pensaient vraiment qu'il manquait du pain, il leur manquait quelque chose, mais à comparer à la disette de Moab, la maison du pain, même en famine, était plus. J'étais dans l'abondance. On va voir ça un peu plus tard. Mais lui, il est rentré en lui-même, puis il a dit ça aussi, les ouvriers dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Fait qu'il voyait maintenant, il se voyait comme peut-être à retourner chez son père pour être un ouvrier, parce que là, il était un ouvrier, il travaillait pour ces gens-là qui faisaient paître les pourceaux, mais il dit, si je travaillais pour mon père, j'aurais un meilleur maître que j'ai ici à garder les pourceaux. Puis c'est ça qui est arrivé aussi avec Naomi, elle a réalisé à Moab que Dieu avait visité son peuple, donc elle aurait été mieux d'être avec le peuple de Dieu quand Dieu l'a visité pour être bénéficiaire de la bénédiction de Dieu. On va le voir, puis Dieu quand elle va arriver à Bethléem, Juda, ça va être dans l'abondance, mais elle va être comme une mendiante, parce qu'il va avoir l'abondance, c'est la moisson des orges, mais elle va être comme une mendiante pour glaner, même c'est sa belle-fille qui va aller glaner. Glaner, ça voulait dire qu'on ramassait des épis en arrière des moissonneurs, des épis qui restaient dans le champ. C'est un petit peu comme l'assistance sociale dans ce temps-là, les veuves, les orphelins. Donc, ils pouvaient aller dans les champs, puis Dieu avait dit, on va voir ça aussi, Dieu avait dit de leur laisser des gerbes ou des épis à glaner pour qu'ils puissent se nourrir. Parce qu'eux, ils n'avaient pas le moyen d'avoir des propriétés pour pouvoir. Puis de l'argent pour semer, pour avoir une récolte. Mais Dieu avait pourvu, il fallait qu'ils aillent glaner, il fallait qu'ils aillent dans les champs des riches, puis les riches leur laissaient des épis à glaner qu'ils pouvaient ramasser pour se nourrir. Mais Dieu avait visité son peuple, mais elle n'avait pas participé à la bénédiction parce qu'elle était éloignée. Voyez-vous, verset 13, elle dit, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Si l'Éternel a béni dans la maison du pain, ben elle a dit que la main de l'Éternel s'est étendue contre elle, parce qu'elle a perdu son mari et ses deux fils. Puis ça veut dire plus encore, parce que dans ce temps-là, ben, les femmes voulaient avoir une postérité. Ils voulaient apporter des enfants dans le monde, mais là, elle est privée de son mari. Puis comme elle dit, même si cette nuit-là, elle aurait eu un mari, puis pour en avoir des fils, elle dit, j'ai plus de fils dans mon sein. C'était vraiment la malédiction qui était tombée sur elle. Mais une décision ferme, là, elle va prendre une décision, mais une décision ferme, ben, elle doit être suivie d'action. Il y a des gens qui disent, ah, ben moi, je vais faire ça, puis je vais faire ça, mais ils ne le font jamais. C'est qu'une décision qui a été prise, si elle n'est pas suivie par l'action qui en découle, ben ça donne rien. On peut dire n'importe quoi. Si on l'accomplit pas, ça vaut rien. Puis c'est ça qu'elle a dit aussi. Elle a pris une décision ferme de retourner à Bethléem Juda pour avoir la bénédiction du Seigneur, chercher par la grâce, parce qu'elle n'a rien, elle peut réclamer rien. Mais une décision ferme doit être suivie par une action. Puis on voit au verset 6, puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Dans le fils prodigue, on voit la même chose. Il a dit, je retournerai vers mon père, je me lèverai, je retournerai vers mon père. Puis il dit ensuite au verset 20 de Luc 15, et il se leva et alla vers son père. S'il s'était pas levé, même avec la décision qu'il avait prise, il avait dit, je me lèverai. S'il s'était pas levé, il n'aurait jamais pu recevoir la grâce de son père. De même ici, comme Naomi, elle avait dit, je vais retourner, mais si elle s'était jamais levée pour se mettre en marche pour retourner à Bethléem, Juda, ben, elle n'aurait jamais pu avoir la bénédiction. Donc ça, c'est l'élément déclencheur qui va commencer tout le processus de bénédiction qui vient de la grâce de Dieu. Donc, à partir du moment où elle se lève, c'est là que commence le travail de restauration. Parce qu'elle s'en va dans l'endroit où elle devait être. Elle n'était pas dans le bon endroit. Elle n'aurait jamais été bénie dans cet endroit-là. Moab n'avait pas la bénédiction de Dieu. C'est dans le pays d'Israël dont elle était une fille d'Israël. Il fallait qu'elle retourne dans l'endroit de la bénédiction pour pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu. Au verset 7, voyez-vous, il dit, elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. C'est le lieu où elle avait connu la mort de son mari, la mort de ses deux fils. Donc, là où la main de l'Éternel s'était appesantie sur elle, elle dit, elle sortit du lieu qu'elle habitait, parce qu'il n'y a pas de bénédiction là, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Donc, il faut qu'elle quitte le pays de la malédiction pour s'en aller là où elle va pouvoir demander la grâce de Dieu. Puis c'est là qu'elle va trouver la grâce de Dieu. Au verset 19, il nous dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Donc, ils n'ont pas arrêté jusqu'à temps qu'ils soient rendus à Bethléem. Il ne faut pas se relâcher dans le Seigneur. Si on veut la grâce de Dieu, il faut aller jusqu'au bout. Puis, elles firent ensemble, ça c'est Ruth et Naomi, on va voir que Orpa, elle n'est pas fait le voyage. Mais eux, ils firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, Juda. Ils n'ont pas arrêté jusqu'à ce qu'ils arrivent à Bethléem, Juda. Puis, il dit ici, toute la ville fut émue à cause d'elle et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Donc, c'est sûr que quand quelqu'un revient, ça peut agiter. Puis, quand il parle que la ville fut émue, là, c'était vraiment, il y avait toute une clameur à Bethléem, Juda, de voir Naomi revenir. J'espère que c'était de la joie qui voyait revenir Naomi auprès d'eux. Puis, des fois, tristement, vous savez, quand des prodigues reviennent, il y a des gens qui ne sont pas toujours heureux de les voir revenir. Puis, on le voit pour l'enfant prodigue. Le père, lui, était joyeux. Il a couru vers lui, puis il a béni, il l'a reçu comme un fils. Puis il dit, parce qu'il avait dit, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils, là, mais il dit, il l'a béni comme son fils, mais le frère aîné, lui, n'était pas heureux. Puis il refusait de rentrer dans la maison pour se réjouir. Puis son père, il a dit, ne fallait-il pas se réjouir parce que ton frère qui était mort est maintenant revenu à la vie. Puis c'est triste quand il y a des gens qui veulent revenir. Puis si on n'est pas, si on est en clameur ou qu'on est agité parce qu'on n'est pas content de les voir revenir, mais ça, c'est pas la, c'est pas, on partage pas la joie du père ici. Comme le fils aîné qui était avec son père ne partageait pas la joie du père. Imaginez-vous la joie du père de voir son fils qui revenait à lui, puis le fils aîné, lui, il participait pas à cette joie-là. Son père est obligé d'aller dehors pour le faire rentrer, pour se réjouir avec eux autres. Mais on doit se réjouir quand ceux qui sont égarés reviennent. Donc, elle est allée et ils ont fait le voyage ensemble jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Mais ici, dans ce passage-là, on voit la division qui existe dans l'humanité. Vous savez, l'humanité est divisée en deux. Il y a ceux qui sont sauvés, puis il y a ceux qui sont perdus. Puis, c'est vraiment une division ici, là, entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Puis, on va le voir dans l'histoire ici, là, au verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Elle était partie avec ses deux belles-filles, mais maintenant, elle leur dit de retourner en arrière, d'aller trouver un mari, trouver le repos dans la maison d'un mari. Mais ils partent toutes les deux ici, mais Orpa va manquer de persévérance. Vous savez, ça prend de la persévérance pour pouvoir hériter la grâce de Dieu. Je ne sais pas qu'on a besoin de travailler pour la grâce de Dieu, mais il faut être sérieux. Si on la veut vraiment, le Seigneur, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Parce que le Seigneur est là, il est prêt, il veut nous sauver, mais il veut voir qu'on soit sincère. Il va y avoir des obstacles au salut. Puis si on se laisse, on se laisse décourager par les obstacles, ben, on ne pourra pas l'avoir. Ça nous fait penser à la parabole du semeur dans Matthieu 13. Il dit, mais il n'a pas de racine en lui-même, celui qui a reçu la parole, puis parmi les endroits pierreux, il se réjouit tout de suite, puis il trouve ça beau, mais il y a pas de, il dit, il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Mais pour Orpa, je pense que ce n'était pas nécessairement une tribulation, mais c'est plutôt le verset 22 de Matthieu 13, celui qui a reçu la semence parmi les épines. Il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc ici, c'est plutôt ça, c'est des soucis du siècle, c'est les choses, les richesses, les choses de la vie. Mais elle, maintenant, étant veuve, Orpa, ben, c'est certain qu'elle voulait un mari. Donc, un mari, Naomi lui a dit, elle a dit, même si j'avais, au verset 11, Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Puis elle le dit aussi, allez pour trouver, comme elle avait dit, allez que chacune, au verset 8, allez que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Donc, au verset 9, Naomi avait dit que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Donc, Naomi leur dit, si vous voulez un mari, retournez dans votre pays, dans la maison de votre mère, pour que vous puissiez avoir un mari. Puis elle, ben, elle voulait sûrement avoir un mari. Elle pensait qu'en allant avec Naomi, qui ne pouvait plus avoir de fils, ben, elle pourrait pas avoir de mari. Mais on voit que la grâce de Dieu va régler ces choses-là. Mais dans le verset 8, Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Donc, Naomi ici leur avait proposé de retourner à la maison de leur mère. Quand on pense à la maison pourquoi qu'elle dit la maison de leur mère? Habituellement, on dirait la maison de leur père. Mais si elle leur parle de la maison de leur mère, parce que la mère est en rapport avec l'affection, puis ce qui est plaisant dans la maison. La mère, c'est elle qui fait ce qui est plaisant, ce qui est beau par rapport à la maison, tandis que la maison du père, ben, ça parle de l'affiliation de la maison. L'affiliation de la maison, ben, on sait qu'elle va leur dire plus tard, dans le verset 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée. Maintenant, ce n'est pas la maison de sa mère, mais c'est vers son peuple et vers ses dieux. Puis, dans le chapitre 2, au verset 11, Boaz va dire à Ruth, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère. Elle a quitté ce qui était plaisant, mais elle a quitté aussi ce qui était l'affiliation de la maison. C'est le père qui démontre l'affiliation. Puis l'affiliation, c'était quoi? Ben, c'était les dieux de Moab. C'est pour ça qu'elle dit, Naomi a dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. C'est vraiment là qu'elle est retournée. Mais Ruth, elle va dire à Naomi, elle dit, mon Dieu, ton Dieu sera mon Dieu. Puis là où tu vas mourir, je vais mourir aussi. Puis là où tu vas être enterré, je vais être enterré aussi. Donc, elle voulait quitter le peuple de Moab pour s'attacher au peuple d'Israël, qui était le peuple de Naomi. Donc, ici, elle a quitté son père et sa mère. Puis, Ruth, Orpa, elle, est retournée vers ses dieux. puis le peuple de Moab. OK, c'est ça. Fait que la maison, quand on parle de la mer, la maison de la mer, c'est en rapport avec ce qui est plaisant, ce qui est beau, mais l'affection, tandis que la maison du Père nous parle de l'association avec le peuple, puis avec les dieux. Elles étaient, pour un moment, elles étaient toutes les deux près de la porte. Elles étaient une à côté de l'autre. Puis, on a parlé de la division de toute l'humanité ici, là, mais pour un moment, elles étaient vraiment près l'un de l'autre. Ça nous fait penser aussi à d'autres situations où des gens étaient vraiment près, étaient près l'un de l'autre, mais en prenant des chemins différents, ils s'éloignent tellement. C'est comme on voit ça des fois dans des endroits là, dans le milieu des États-Unis ou même dans le Canada. On parle là où les eaux se partagent. C'est que à partir de ce point-là, un point géographique, deux gouttes d'eau peuvent tomber l'une à côté de l'autre et une part pour ici le continent, une part vers l'ouest et l'autre part vers l'est. Pour terminer dans des océans qui sont séparés d'une très grande distance. Puis c'est ça qu'on voit ici, là. On voit ça aussi dans Caïn et Abel. Caïn et Abel, les deux fils d'Adam et Ève, qui étaient des frères, Caïn a choisi une part différente que Abel. Abel, il avait offert ce que Dieu demandait, un sacrifice. Caïn a offert ce que lui pensait qui était bon, c'est-à-dire le fruit de son travail, de sa labeur. Le fruit qui venait vraiment d'un sol que Dieu avait maudit, une terre que Dieu avait maudite à cause du péché, puis il avait dit à Adam que c'est à la sueur de son front qu'il tirerait la nourriture de cette terre. Puis Adam, pas Adam, mais Caïn, lui, il a pris de cette nourriture qui venait d'un sol maudit pour offrir à Dieu. Dieu avait dit à Caïn, si tu offres bien, comme Abel avait offert un premier-né de son troupeau, mais Caïn, lui, avait offert différent. Donc ici, on a deux frères qui sont proches l'un de l'autre, mais toute l'humanité s'est divisée à partir de ces deux-là. On a la postérité de Caïn qui s'éloigne de Dieu, puis on a la postérité de Seth qui a remplacé Abel. Là, on a une préfiguration de la résurrection. Abel meurt, Seth revient pour continuer la lignée, comme le Seigneur Jésus est mort, mais selon les Écritures, il a été enseveli, mais il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, puis c'est lui qui a commencé cette nouvelle création qui nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, il est le premier-né de toute cette nouvelle création-là. On pense aussi, il y a plusieurs endroits que cette chose-là se retrouve dans la parole de Dieu. On pense aussi aux deux brigands qui étaient de chaque côté du Seigneur Jésus sur la croix. Ils étaient très près, ils étaient à côté du Rédempteur. Puis la même chose, ils auraient pu être sauvés tous les deux. Mais un a choisi de se détourner, tandis que l'autre a choisi de suivre, de demander au Seigneur pour être sauvé. C'est ce que ici ils vont faire. Ruth, elle s'attache à Naomi. Puis avec une fermeté, elle dit au verset 16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Puis verset 18, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. C'est-à-dire que ça donne plus rien d'insister, là. Elle est convaincue, il n'y a rien qui peut la faire retourner, elle va suivre Naomi, puis il n'y a rien qui va l'arrêter de suivre Naomi. Mais ça nous fait penser aussi quand le Seigneur a dit aux disciples, parce qu'il y avait plusieurs, à cause des choses que le Seigneur avait dit, ils ont cessé de le suivre. Puis le Seigneur s'est tourné vers ses disciples, puis il dit, vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Puis Pierre qui a répondu, il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il n'y avait pas d'autre issue, c'était seulement une façon, c'était de suivre le Seigneur Jésus, puis il n'y avait rien qui pouvait les empêcher. Même si ce que le Seigneur Jésus avait dit pour que d'autres s'en aillent, mais eux, ils n'étaient pas, ils pouvaient pas s'en aller parce qu'il n'y avait pas d'autre option que de suivre le Seigneur Jésus. Mais vous savez, le salut est offert universellement, mais il est reçu individuellement. Il y a des gens qui vont nous dire que le salut est limité seulement à certaines personnes, mais le salut, Dieu l'a accompli pour tous. Dans 1 Jean 2, il nous parle du Seigneur Jésus qui est la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Donc le salut est offert à tous. Il nous dit dans Pierre, ne voulant pas qu'aucun périsse. La volonté de Dieu, c'est qu'aucun périsse. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être sauvés. Parce qu'il reste l'autre partie. Dieu, lui, il pourvoit au salut. Il l'offre gratuitement parce que personne ne peut le payer, mais il s'agit de le recevoir. Puis c'est ça qu'on voit dans ces deux-là. Il y en a qui reçoivent, puis il y en a qui ne reçoivent pas. Peut-être aller dans Hébreux 6, 12, puisque Hébreux 6, 12, il nous dit, et je vais m'arrêter bientôt pour laisser du temps, mais Hébreux 6, 12, il faut de la persévérance. On l'a vu dans la parabole du semeur aussi, là. Mais dans Hébreux 6, 12, il dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et Dieu veut voir que vraiment on est sérieux quand on veut être sauvé, parce que si on n'est pas sérieux, ben, on va se détourner au moindre obstacle, que ce soit les richesses, les soucis du siècle, que ce soit les tribulations ou la persécution, on va se détourner. Dans la parabole du semeur, on voit qu'il y a 4 terrains. Le premier terrain, c'est le long du chemin, le sol est dur, la même parole, ce n'est pas une parole différente, c'est la même parole qui a été prononcée, elle tombe sur le bord du chemin, puis les oiseaux viennent, puis ils la mangent, puis ça ne fait rien. Mais il y a deux terrains, il y a les endroits pierreux, parmi les épines. Bien, ce qui arrive, la parole là, puis pour un temps, ces gens-là sont excités, ils sont contents, mais ils n'ont pas la persévérance. Pour les endroits pierreux, aussitôt qu'une tribulation vient ou quelqu'un va dire une remarque ou va dire, bien, si tu acceptes le Seigneur, c'est fini, que ce soit une relation entre un homme et une femme, ça arrive souvent. Puis, mais ceux qui vont aimer plus la relation que le salut, ben, ils vont se détourner du salut. Puis il y en a d'autres, ben, c'est leur position dans la vie, c'est les richesses, c'est les choses qu'ils veulent poursuivre dans la vie, eh bien, ils vont se détourner du Seigneur. Mais il y a la bonne terre. Puis la bonne terre, elle va persévérer, elle va porter du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Mais le salut est offert à tous de la même façon. Mais il faut qu'il soit reçu. Dieu a dit dans Deutéronome 30-19, c'est sûr qu'il parlait à son peuple d'Israël ici, mais le principe est le même dans toute la parole. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Donc le Seigneur, il donne le choix, puis c'est vrai qu'on a le choix. On peut soit recevoir le salut de Dieu ou on peut le rejeter. Puis Dieu va respecter le choix de chacun. Mais il l'offre à tous. Fait que je m'arrête là pour ce soir. On va s'arrêter là. On continuera avec le verset 9 la prochaine fois. Mais je vais vous donner l'opportunité de pouvoir, si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires en rapport avec l'étude de ce soir, eh bien, là, je vous donne la possibilité de prendre votre micro. Puis comme je le dis, des fois, si vous ne le prenez pas tout de suite, des fois, on ne peut pas le faire. Fait que faites signe de la main. Puis je vais essayer de vous garder l'attention pour pouvoir vous donner l'opportunité de reprendre votre micro. Fait que je m'arrête là.
Bonsoir Gérald. Et en effet, frère et sœur, faites attention. La dernière fois que j'ai pas pu parler parce que j'avais pas muté, j'avais pas démuté. Fait que tu fais bien de le mentionner. Je
OK.
voulais mentionner, j'ai énormément aimé la portion que tu nous amenais dans Genèse, parce que je voulais complémenter un peu là-dessus pour au niveau du sacrifice et l'important de du symbolisme derrière. Si vous voulez bien retourner avec moi dans Genèse 4. Parce que on parlait tout à l'heure de Caïn et Abel.
Oui.
Et l'une des raisons, en effet, que le sacrifice de Caïn a été refusé, c'est, en effet, c'était du fruit de la terre qui était maudit. d'un homme, ça fait un moment que j'avais entendu ça. Il y avait un autre point aussi qu'on va complémenter par, je vais vous amener à quelques places probablement, mais peut-être plus en surface. Donc, on relit dans Genèse 4, 3 et 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Une autre des différences majeures entre les deux offrandes ici, et on voit ça par, dans la loi, les Deutéronomes, Nombre et Lévitique, à quel point le sacrifice en soi, le symbolisme était complexe, précis et tout avait sa signification. Tout comme on voit dans l'épître de Jean, correction, l'évangile de Jean, si je me souviens bien, c'est avec la Samaritaine où le Seigneur lui dit que viendra un jour où où le Seigneur voudra des adorateurs en esprit et en vérité. Tout ça nous ramène à l'importance d'amener son meilleur quand on offre à Dieu. Et c'est une chose que Caïn n'avait pas fait parce qu'il ne dit pas ici, il a amené les prémices de ses récoltes. Il ne dit pas ici les meilleurs produits, mais tout simplement des produits de sa récolte, des fruits de la terre. Caïn n'avait pas amené le meilleur. Il avait amené ce qu'il y avait de second. Et quand on se présente devant l'Éternel, l'être parfait, avec quelque chose de second grade, c'est tout comme les prêtres de l'Ancien Testament s'ils se présentaient devant le sacrificateur avec des agneaux tachetés ou des animaux imparfaits. C'est bafouer le symbolisme et c'est rejeté sur le champ. Nous aussi, frères et sœurs, c'est un encouragement quand on vient offrir le sacrifice de louange à l'assemblée, quand on fait les études, quand on sert l'Éternel à donner notre meilleur pour le meilleur.
Wow. Ouais.
Ah, merci, Jérémy.
À plaisir.
Remarque générale à propos du verset 15.
Oui.
Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur.
Oui.
Ouais, côté ce qu'on vit aujourd'hui, bien, on aurait insisté, probablement à lui montrer que c'est préférable de recevoir le Seigneur, mettons,
Ouais.
quand on parle aujourd'hui. Mais à ce moment-là, disons, Ruth, elle aurait pu peut-être insister en lui disant, bien, ce serait préférable que tu viennes si tu veux recevoir la bénédiction aussi.
Ouais.
Ouais. Mais elle ne l'a pas fait.
Ouais.
Ouais.
C'est un peu comme le Seigneur, comme on avait mentionné le Seigneur quand il parlait d'une façon difficile, puis il y a plusieurs, à cause des paroles qui étaient dures, ils ont cessé de suivre. Mais c'est pour démontrer vraiment s'il y a la persévérance, si quelqu'un est vraiment sérieux. S'il veut, Seigneur a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Mais il y a des gens qui cherchent d'une façon désintéressée, avec un grand intérêt, c'est juste par curiosité. Mais le Seigneur ne se révèle pas à des gens qui veulent juste avoir la curiosité. Mais comme les disciples ont dit, eux autres, il leur a offert. Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Puis ils ont dit, à qui irions-nous? Vraiment, ils étaient déterminés. Ils savaient qu'il y avait seulement un endroit. C'était le Seigneur Jésus. Puis s'ils se détournaient du Seigneur, il n'y avait plus rien. Mais le Seigneur veut voir le sérieux dans la personne. C'est pas, il y a des gens qui veulent juste savoir, juste pour après ça, dire, ah oh non, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais, le Seigneur, parce que du fait que le Seigneur se révèle à quelqu'un, c'est une grande responsabilité. Parce que je crois vraiment qu'il y a des gens à qui le Seigneur s'est révélé, puis au point de dire oui, ils ont dit non. Puis ça, c'est grave. Parce que si quelqu'un est amené à ce point-là, puis qu'il dit non, ben, pourquoi que le Seigneur le ramènerait là, à la repentance?
Est-ce que ça serait le péché contre le Saint-Esprit à ce moment-là?
Ben, on sait que le péché contre le Saint-Esprit, ça s'adressait aux Juifs, justement, qui, ayant vu tous les miracles du Seigneur Jésus, toute la puissance de Dieu, ils ont dit, c'est par Satan qui chasse les démons. C'est qu'ils ont attribué la puissance de Dieu à Satan. Puis vraiment, ils ont rejeté devant l'évidence que le Seigneur leur donnait qu'il était vraiment venu de Dieu. puis qu'il faisait des œuvres de Dieu pour les sauver. Ils ont rejeté, puis ils ont attribué ça à Satan. Mais dans un même sens, je crois que oui, quelqu'un qui vient au point, qui a compris, été convaincu par le Saint-Esprit que de sa perdition, puis que le seul moyen de salut, c'était le Seigneur Jésus, bien, à ce moment-là, on peut dire soit oui ou non. Puis c'est pour ça que le Seigneur, des fois, il nous amène au point, il ne veut pas nous amener là tant qu'on a. C'est vraiment parce qu'il ne veut pas qu'on périsse, il veut qu'on soit sauvé. Mais si la lumière qui est en toi devient ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres?
Merci.
Puis ça démontre vraiment l'intérêt de Orpa, là, parce que son nom, Orpa, veut dire, c'est comme une crinière, la crinière d'un cheval, mais c'est le coude qui décline ou c'est le cou raide. Parce qu'on voit qu'elle a choisi plutôt l'avantage de retourner puis trouver un mari dans son pays. Au lieu de se confier, ça démontre qu'elle n'avait pas la foi que Dieu était capable de lui donner un mari en suivant Naomi, parce que Naomi avait plus de fils. Puis, mais Ruth, elle, par la foi, elle est venue puis elle va trouver un mari dans la personne de Boaz. Ouais.
Il y a aussi,
Général,
au nom
oui.
de Ruth.
Ah, pardon, il y a Richard, puis il y a quelqu'un d'autre.
Le
Richard?
Gilbert qui a demandé.
Ah, Gilbert, ouais, c'est quoi tu as demandé?
Vas-y, Gilbert.
Oui, ouais, c'est quoi déjà la signification du nom de Ruth?
Ruth, ça veut dire amitié. C'est comme,
Amitié, OK.
ouais, c'est quelqu'un qui est, c'est
Okay.
l'ami, dans l'adversité, l'ami se montre un frère. Puis elle a suivi, elle, Naomi. Richard, tu avais.
Oui, je trouvais que dans l'histoire de Ruth, on a un exemple aussi où la famille d'Élimélec avec ses enfants vont fuir le jugement de Dieu pour s'en aller en Moab pour avoir un pays plus prospère. Peut-être pour pas perdre leur fortune ou peu importe, parce que Ruth a dit quand même que, pas Ruth, mais
Naomi.
Naomi dit quand même qu'il était à l'aise quand ils sont partis.
Ouais, il était dans l'abondance. Ouais.
Mais il était dans l'abondance. Mais même sous le jugement de Dieu, là, Ruth va trouver, pas Ruth, mais Naomi va trouver la grâce. Tandis que dans le pays de Moab, il aurait probablement pas trouvé la grâce.
Non, c'est ça, ouais.
Puis ça me faisait penser à David qui s'est mis sous le jugement de Dieu. Il a accepté son jugement, puis il a dit, j'aime mieux tomber dans les mains du Seigneur parce qu'il est miséricordieux. Il peut trouver miséricorde et grâce tant qu'on est sous la grâce de Dieu, même sous son jugement, il
Ouais.
peut trouver la grâce de Dieu.
Exactement. Ouais. OK, le temps est dépassé un petit peu. On va peut-être terminer par un mot de prière. S'il y en a qui veulent continuer à jaser, on pourra le faire, mais ceux qui doivent partir pourront le faire. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois dans ces choses, dans ces leçons qu'on apprend dans ta parole de Dieu. On sait, Seigneur, on est mieux d'être avec toi dans la disette que être dans l'abondance loin de toi. Puis on te demande, Seigneur, que tu nous apprennes ces leçons. On a trouvé la grâce en se tournant vers ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as bénis d'une bénédiction tellement grande. Mais en attendant, Seigneur, donne-nous de marcher fermement, de ne pas se détourner. Puis on te remercie pour tous ceux qui sont là ce soir. On te remercie pour la femme de Serge aussi, qui on a prié pour elle, Seigneur. Puis tu as répondu. Puis prends soin d'elle pour l'aider à guérir aussi, Seigneur. Puis qu'elle puisse se tourner vers toi pour être sauvée. On te remercie pour tous tes bienfaits, notre Dieu. On te remercie pour ton amour. Merci pour tous ceux qui sont là ce soir. C'est vraiment une grande bénédiction, Seigneur, de se retrouver ensemble autour de ta parole. Et on sait que tu nous bénis, Seigneur, dans ta parole. On t'en rend grâce, honneur pour la gloire de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.